Donc j'en passe maintenant à la présentation de notre conférencière, Michel Terrien, qui est professeur des universités à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Elle est actuellement responsable du cursus Langues et cultures inuites à l'INALCO, où elle dirige également le programme Parole, ainsi que le programme de recherche sur les littératures et les oralités dans le monde, CERLOM. Ses terrains d'étude sont le Nunavik, arctique québécois, et le Nunavut, arctique oriental canadien. Je citerai simplement deux ouvrages, les langues Eskaleout, Sibérie, Alaska, Canada, Groenland. C'est un travail en collaboration avec Nicole Terzi, édition CNRS en l'an 2000. Et Printemps Inuit, naissance du Nunavut, indigène édition en 1999. Donc je lui cède la parole, après quoi nous aurons un petit échange de 20 minutes avec le public. Merci beaucoup.
Je vous remercie de m'accueillir et je remercie également Yves Michaud de m'avoir convié à ce cycle de conférences organisé autour de la thématique de l'extrême. L'occasion m'est offerte de poser la question suivante. Le qualificatif extrême s'applique-t-il à l'expérience que les Inuits ont de leur environnement en Alaska, dans l'Arctique canadien ou au Groenland? Je ne le crois pas. Et je tenterai, en m'appuyant sur leur représentation, sur leur vécu, de montrer que si le qualificatif extrême correspond adéquatement ou assez adéquatement aux images que nous, occidentaux, avons des régions de haute latitude, ce même qualificatif est absent du discours que les Inuits tiennent sur ces mêmes régions où, disent-ils, il fait bon vivre. Cela en dépit des défis posés par le climat, des défis posés par l'acquisition de nourriture, et vous savez qu'elle est toujours aléatoire, souvent aléatoire, dans les sociétés de chasseurs. Et comme l'a exprimé très finement un Inuk de Kangiksuk au Nunavik, la région arctique du Québec, voici ses propos. Il disait « Les Occidentaux se nourrissent de végétaux qui ne peuvent pas fuir. Nous, les Inuits, nous vivons d'animaux qui fuient à notre approche. » Les difficultés du milieu ne sont donc pas niées. Mais je pense qu'il serait prudent de considérer l'Arctique Inuit non pas comme un milieu extrême, mais comme un milieu exigeant et qui a permis à une culture vieille de plusieurs millénaires, originaire de Sibérie, de se développer, de perdurer, de connaître au XXe siècle une démographie ascendante et, depuis les années 1910, de s'affirmer politiquement en mettant en place des gouvernements d'autonomie interne, d'autonomie régionale, si vous voulez. Je tiens dans un premier temps à rappeler un ensemble de malentendus, de stéréotypes tenaces qui réduisent trop souvent l'Arctique à une immensité vide, immobile, monochrome, placée sous le seul signe du froid ou encore de la neige, de la glace, de la nuit polaire. Et ces images provoquent des sentiments de répulsion, d'effroi, parce que ces images sont associées à la privation de beauté, à l'ennui, à la pénurie, au danger. L'extrême nord, ainsi que nous le disons, attire autant qu'il inquiète. Mais il faut considérer que, et surtout conserver en mémoire, que l'Arctique est d'abord un milieu de vie, un lieu de vie, librement choisi, que les Inuits voient comme plein, saturé de présence humaine et animale, interactive, sans oublier la présence des défunts et d'autres entités invisibles. Tout invisibles que soient ces entités, elles se manifestent fort souvent aux humains. Il existe, si vous voulez, chez les Inuits, une forme de sociabilité qui ne se limite pas aux seuls humains vivants, de telle sorte que des réseaux d'échanges symboliques permettent aux diverses composantes de l'univers d'interagir. Ce sont des pratiques qui s'appuient sur des représentations qui elles-mêmes tirent leur signification d'un arrière-fond chamanique qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, même si les Inuits se disent parfaits chrétiens. L'Arctique, disent-ils, est un milieu favorable au bien-être physique, au bien-être psychique. Et vous vous en doutez, il est riche en protéines animales. On dirait aujourd'hui riche en oméga 3. Mais il est avant tout, je pense, un lieu de tous les possibles. C'est-à-dire que les configurations du paysage invitent au déplacement, invitent au mouvement, invitent à l'action. Et j'ajouterais à la contemplation. Et je voudrais citer les propos de Ayupita, qui est une Inuk qui est née au Groenland, mais qui vit depuis de fort nombreuses années maintenant dans l'Arctique canadien, plus précisément au Nunavut. Voici ce qu'elle me disait. « Nous habitons une région immense. Privée d'espace, nous ne pourrions pas vivre. Autant nous condamner à l'immobilité. Ici, il n'y a pas d'arbres. Le regard porte à l'infini. C'est rassurant de savoir que nous disposons de tout cet espace pour nous déplacer. Cette région est magnifique. Elle est à la fois tonique et apaisante. » En langue inuite, le terme « nuna », qui est un terme ancien, qui est utilisé encore par les Yupites sibériens. Les Yupites sibériens, si vous voulez, sont les voisins culturels des Inuits. Ce terme « nuna » figure également en langue aléout. Et il est utilisé en Alaska, dans l'Arctique canadien et au Groenland, c'est-à-dire surtout le pourtour circumpolaire inuit. Eh bien, ce terme « nuna » désigne le lieu de résidence, le territoire parcouru, le campement, le sol, la terre, le pays, et je pourrais multiplier les significations. Je ne retiens que celles-ci qui sont principales. Le terme « nuna », il est important d'y réfléchir, n'est pas l'équivalent du terme « arctique ». « Arctique », vous le savez, je vous le rappelle, vient du mot grec « arctos », ours. Il semble bien que ça ne soit pas l'ours polaire qui ait été désigné, mais bien l'ours brun des cavernes. Et je vous rappelle brièvement que la Grèce antique avait nommé Hyperborée le royaume d'Apollon, un univers lumineux où l'âme se régénérait dans la blancheur. Apollon avait révélé aux Grecs l'existence d'un pays étrange, un pays lointain, un pays inconnu. Et rappelez-vous, des signes l'avaient conduit jusqu'au pays des Hyperboréens, de l'autre côté du vent du nord, dans l'ultime nord. Et revenu à Delphes, il avait pu tuer le monstre Python, gardien de l'oracle de Thémis. On dit qu'il retournait en automne dans ce pays à l'air pur pour en revenir au printemps. Vous imaginez bien que ce que les Inuits, pour leur part, nomment « nuna » est tout autre. « Nuna » inclut le continent et la banquise. La banquise est le prolongement, si vous voulez, du continent. Bien sûr, la banquise est désignée par des termes spécifiques. Néanmoins, dans le vécu, dans les pratiques des Inuits, en période hivernale, on passe facilement du continent au milieu marin gelé. Nuna ne renvoie pas du tout à l'image de l'ours, bien que l'ours polaire, Nanork, ait occupé une place centrale dans le chamanisme inuit. Nanork a toujours été considéré comme le plus puissant des esprits auxiliaires du chaman. Vous le savez, le chaman avait pour mission de rétablir les équilibres, de rétablir les harmonies sociales, l'harmonie écologique, l'harmonie cosmologique, mise à mal par les gestes ou les paroles irréfléchies des humains. Et il était toujours soutenu dans sa tâche par un animal et souvent par Nanurok. Le terme Nuna ne renvoie pas davantage à l'image de la neige ou de la glace, bien que les paysages de haute latitude soient rarement libres de glace ou de neige. Et je pense bien sûr ici au sommet des montagnes, aux glaciers, à la banquise mouvante. Et pourtant, il a souvent été répété que les Inuits utilisent des centaines de termes pour décrire les différentes qualités de neige. Je suis sûre que vous l'avez entendu, que vous l'avez lu. C'est juste. Et pourtant, je dirais qu'il vaudrait mieux considérer que l'abondance lexicale se trouve du côté des processus qui vont de l'eau libre à l'eau gelée. Donc sans se restreindre au phénomène neige. Et au risque de vous décevoir, j'ajoute qu'il est plus pertinent de considérer que trois notions organisent l'ensemble du champ d'expérience de la neige. D'abord, kranik, qui désigne une neige tombante ou flottant dans l'air. Apouti, une neige posée au sol ou encore sur n'importe quelle surface. Et ici, vous voyez tout de suite l'opposition dynamique-statique. Et enfin, aniou, une neige tombée, susceptible d'être transformée en eau potable. Par conséquent, Nuna, le territoire, n'est ni placé sous le signe de l'ours, ni sous le signe de la blancheur, ni sous le signe de l'extrême. Il s'agit du point de vue des premiers utilisateurs de ce territoire, les Inuits, d'une terre, d'une vaste terre, je pourrais le mettre au pluriel, de terres habitées, parcourues, dont la moindre parcelle est nommée, même si les toponymes ne figurent pas sur les cartes, sur toutes les cartes, ce sont souvent de micro-toponymes. Donc, chaque pointe, chaque fjord est nommé, chaque élévation est nommée. Et ces terres appartiennent à part égale à tous, humains vivants ou défunts, animaux et entités invisibles. Nuna est un bien collectif. Ce qui veut dire qu'il demeure inaliénable. Et pourtant, les Inuits de l'Alaska en 1971, de l'Arctique canadien en 1975, en 1984, en 1999, et les Inuits du Groenland en 1979, se sont vus, à la suite de leurs revendications, reconnaître des terres légalement appropriées. Difficile alors de parler de Nuna comme le faisaient les générations précédentes. Qu'à cela ne tienne. Un nouveau terme a été créé, dérivé du premier. Nuna, et à Nuna s'est ajouté Nunarkote. Il existe désormais deux régimes de représentation et deux termes. Mais sur un terrain de chasse ou encore chez soi, on parle de Nuna. Alors que Nunarkote figure dans les récents textes de loi, ou encore s'énonce autour d'une table de négociation. Et du point de vue inuit, ceci n'est nullement contradictoire. Même si Nuna a acquis le statut de territoire légalement approprié, la transmission orale qui s'effectue encore aujourd'hui d'aîné à cadet, s'opère de la même façon, c'est-à-dire que l'on définit Nuna comme un lieu d'expériences accumulées, expériences subjectives et expériences collectives. Nuna est la source de toute pensée Et Nouna est le marqueur identitaire fort par excellence. Si je reviens au qualificatif extrême, je pense tout de suite à mes collègues spécialistes de géophysique des milieux froids. Que disent-ils ? Ils proposent un ensemble de traits descriptifs pour caractériser les espaces arctiques. J'en retiens quelques-uns. Ces espaces se situent au-delà de la limite de la forêt boréale. La moyenne des températures au mois de juillet avoisine 10 à 15 degrés Celsius. Le sol et le sous-sol se caractérisent par le pergélisol, c'est-à-dire par un gel permanent en profondeur. Les variations annuelles de l'intensité lumineuse vont du jour continu à la nuit hivernale. Enfin, le cercle polaire se situe au 66e nord. La perception des Inuits et leur sensibilité au milieu physique s'expriment dans des termes différents, vous vous en doutez. Les Occidentaux ne parlent, disent-ils, que du froid. Et nous devons reconnaître en effet que le froid n'est pas une valeur absolue. Et sachez que chez les Inuits, il est très mal vu de se plaindre des saisons, de se plaindre du temps qu'il fait. Et c'est une mauvaise habitude que les jeunes scolarisés prennent aujourd'hui. Les grands-parents, les parents considèrent qu'un Inuk ne doit jamais se dire ennuyé ou fatigué, qu'il fasse mauvais temps, qu'il vente sans discontinuer, qu'il fasse du blizzard pendant 3 jours ou plus. Le seul fait d'être vivant interdit le sentiment de lassitude. Alors que fait-on ? En période de mauvais temps durable, eh bien, il faut exercer des pressions sur le temps pour qu'il change. Et on trouve les moyens de fabriquer c'est bien le terme en langue inuite, on fabrique le beau temps en se souvenant des jours où ce temps, si là le maître du temps, s'est montré particulièrement clément. Et la langue inuite associe très, très joliment une personne dont les propos sont clairs, une personne qui dit vrai, à la limpidité de l'air par un jour de grand froid où la moindre configuration du paysage se détache parfaitement. Et s'il n'est pas de bon temps de parler du temps qu'il fait, de s'en plaindre, il n'est pas de bon temps non plus de se plaindre du froid. Et d'une façon générale, de parler du froid, sauf des techniques qui permettent de bien le supporter. Le froid, selon les Inuits, ne constitue pas un danger pour la santé, sous réserve, vous vous en doutez, que l'alimentation, le vêtement soient adéquats. On craint davantage que le corps ne s'échauffe et qu'il ne s'assèche. Si vous voulez, la chaleur n'a pas bonne réputation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas recherchée. Elle n'a pas de valeur négative en elle-même. Mais néanmoins, elle peut éventuellement être associée à une diminution de l'énergie vitale et à la faiblesse. Et on en veut pour preuve, et on vous le dit, qu'une personne malade, très souvent, évidemment, voit la température de son corps s'élever de manière anormale. On considère qu'une personne en bonne santé a un corps sec et frais. Il faut comprendre par là, sans chaleur excessive. Et lorsque vous êtes sur un terrain de chasse, à la suite d'un effort physique, le corps, bien sûr, transpire, ce qui est fréquent, hein, même s'il fait moins 25, même s'il fait moins 30 degrés. Et c'est le vent, à ce moment-là, qui représente le facteur de refroidissement par excellence. Et vous comprendrez mieux pourquoi les vêtements cousus par les femmes inuites ont en général de très larges ouvertures. Donc le vent permet à la chaleur excessive de s'évaporer et surtout d'éviter que les vêtements ne gèlent. Et les Inuits les plus âgés vous diront qu'ils se souviennent que leur entourage se montrait extrêmement inquiet si le vent ne se manifestait pas plusieurs jours de suite. Le vent, dit-on, a le pouvoir de chasser la maladie. Pour lutter efficacement contre le froid excessif, l'approvisionnement en viande fraîche était nécessaire et reste encore aujourd'hui nécessaire, autant pour le corps que pour l'esprit. On dit qu'après avoir mangé une quantité suffisante de viande de phoque, on se sent à nouveau bien disposé à l'égard des autres, souriant, prêt à leur rendre un service s'ils en ont besoin. Et je vous cite maintenant les propos d'une jeune Inouk d'une trentaine d'années et qui s'appelle Suzanne Padlork Inuararq. Il est important d'avoir signalé qu'il s'agit d'une jeune. Elle a dit ceci il y a très peu de temps. Encore aujourd'hui, malgré les technologies modernes et l'accès des biens importés, nous continuons à penser que le phoque fait partie intégrante de notre culture, mais aussi de notre économie. Les médias qui se sont intéressés ces dernières années à notre mode de vie, et notamment à la chasse au phoque, ont déclaré que nous ne sommes plus de vrais Inuits, parce que nous ne chassons plus de manière traditionnelle, parce que nous ne dépendons plus uniquement de phoques pour vivre. Il est vrai que nous pouvons nous approvisionner au magasin, mais encore faut-il trouver les moyens financiers pour le faire, et le magasin ne vend ni phoques ni caribous. Le phoque représente autre chose qu'une ressource alimentaire, il fonde notre identité. C'est en partageant sa viande et en nous rassemblant autour de lui que nous retrouvons nos forces physiques et psychiques. Et, fin de la citation. Et il est vrai que les récits de chasse, les connaissances sur le monde animal, les souvenirs d'enfance, les contes, les mythes, se partagent à un moment précis, privilégié, où, assis à même le sol, on fait circuler la viande. Si l'on est sur un terrain de chasse et en présence d'aînés, très souvent, un aîné fera circuler cette viande dans le sens de la trajectoire du soleil, si vous voulez, qui symbolise l'harmonie universelle. Et les savoirs, les valeurs se transmettent à un moment où on a un houlou à la main, c'est-à-dire un couteau féminin, un savik à la main, un couteau masculin, et où on réfrène les questions inopportunes et où on privilégie l'écoute. Les Inuits ne considèrent pas habiter des climats extrêmes, ni connaître, sauf expérience extrême, qui arrive tout de même, mais sauf, je dirais, exception. Ils considèrent vivre dans un pays non pas facile, je vous l'ai dit, un pays exigeant. Mais je me pose la question, car ils se posent eux-mêmes la même question, se peut-il qu'ils soient amenés à changer d'avis, que ce pays, ces territoires circumpolaires ne soient plus qu'exigeants, mais deviennent peut-être susceptibles d'être qualifiés d'extrêmes. Et je pense au dérèglement climatique actuel. Si jamais ce dérèglement climatique s'intensifie, que se passera-t-il? Et la question est d'autant plus pertinente que les chasseurs ont noté depuis plusieurs années, ont été parmi les premiers à noter des signes de l'accélération, des signes qui semblent ne pas tromper, des signes de l'accélération du changement climatique et du réchauffement. Et je voudrais vous en donner quelques exemples. Vous savez que dans l'Arctique canadien comme ailleurs, tous les Inuits sont aujourd'hui sédentarisés et ne vivent plus dans des igloos. Et pourtant, les igloos sont toujours construits dans l'Arctique canadien par des chasseurs qui ont besoin de s'abriter lorsqu'ils partent chasser le caribou à l'intérieur des terres ou chasser tout autre animal, qu'ils partent pour peu de temps, de nuit, qu'ils partent pour une semaine, pour deux semaines, voire trois semaines et plus. Il faut donc s'abriter. Et les chasseurs actuellement disent qu'il devient délicat de construire un igloo qui soit parfaitement sécuritaire. Vous savez que la construction d'un igloo ne peut jamais s'improviser, et c'est une architecture qui répond à des gestes codés et qui répond également à une qualité de neige. La neige doit être vivante, c'est-à-dire poreuse, une neige qui respire, ni trop solide, ni trop molle. Et les chasseurs remarquent à l'heure actuelle qu'elle a tendance à mollir dans sa partie inférieure, ce qui peut présenter un éventuel danger. Et les chasseurs remarquent également qu'il y a de plus en plus de tempêtes soudaines, de brusques changements de température qui risquent d'une part de recouvrir l'igloo, mais qui risquent aussi d'ouvrir à nouveau une banquise qui était bien soudée, donc sécuritaire, et qui risquent, par exemple au moment de la formation de la banquise, de retarder le moment de cette formation. Et comme vous le savez, la banquise est une voie de circulation. L'englacement est toujours une bonne nouvelle chez les Inuits. Même le froid, un froid de moins 40, doit être présent pendant de nombreux jours pour être certain que cette banquise soit d'une qualité parfaite. Pour que aujourd'hui les motoneiges puissent s'y déplacer, encore bien sûr les traîneaux s'y déplacent, mais il y a encore très très peu de temps, en l'absence de pistes d'aviation, les avions se posaient sur la banquise, et cela en toute sécurité. Et les Inuits ne redoutent pas les périodes de froid, puisqu'ils en ont une longue pratique. Ils redoutent davantage les intersaisons, le printemps, l'automne. Et c'est à ce moment-là où la circulation sur la toundra, la circulation en mer ou sur une banquise qui ne serait pas encore très sûre, devient dangereuse. Les femmes ont tendance, et ceci a été remarqué dans les dispensaires ou à l'hôpital, les femmes ont tendance à consulter davantage pour des troubles, je dirais, indéfinissables. Indéfinissables, il s'agit d'une inquiétude. Elles savent très bien que les maris, les compagnons, les enfants, les parents peuvent être à la chasse, qu'il peut y avoir un accident, bien sûr, peuvent ne jamais revenir. Beaucoup d'accidents ont lieu dans ces hautes latitudes. Et les femmes s'inquiètent également du comportement des jeunes qui, vous savez, aiment bien sauter d'un glaçon à l'autre. En même temps, les adultes ne leur interdisent pas ce comportement dangereux. Ils doivent apprendre à faire face au danger, mais néanmoins, le danger est là et les réactions sont là, l'inquiétude. Les chasseurs ont également remarqué que les ours qui chassent sur la banquise ont de moins en moins de temps pour se nourrir. Pourquoi ? C'est en raison de la débâcle qui intervient parfois trois semaines plus tôt que prévu ou un mois plus tôt que prévu. Et les ours affamés, tous ne sont pas affamés, mais certains ours affamés, lorsqu'ils sont privés d'une quantité de graisse de phoque nécessaire, bien sûr graisse et viande nécessaire à leur survie, mais également nécessaire à leur reproduction, ces ours ont tendance à s'approcher des communautés, à s'approcher des villages, ce qui représente bien sûr un danger pour les Inuits, mais ce qui représente également un souci, un profond regret de devoir abattre un animal qui parce qu'il a faim, s'aventure sur, un peu trop près sur le territoire des humains, alors que dans des circonstances normales, il évite ce contact. Et malgré des incidents qui se produisent, les Inuits considèrent à l'heure actuelle que les ours ne sont pas en danger. Donc l'ours polaire n'est pas en danger, il n'est pas en voie de disparition. Les ours qu'ils croisent sont rarement trop maigres. Ils semblent en bonne santé. Et c'est pour cette raison que les Inuits ne souhaitent pas que des mesures protectionnistes supplémentaires soient prises. Et puis, je pourrais multiplier les repères dans le cycle annuel qui indique bien une accélération du changement climatique et qui va bien sûr vers un réchauffement. On a vu par exemple des insectes inconnus arriver dans des régions telles la terre de Baffin. Il n'y a pas de nom pour ces insectes. Les insectes existent en terre inuite, ils ont des noms, mais voilà, on ne pouvait pas les nommer, on n'avait jamais vu. On a vu des merles. Les merles n'ont pas de nom, du moins encore en langue inuite. Et puis, peut-être plus grave, des incidents se sont produits dans l'Arctique canadien, suite à la fonte graduelle du pergélisol. Vous savez que les maisons sont des maisons de bois, des maisons préfabriquées, le bois est importé, nous sommes dans des régions de toundra, ou du moins des régions d'arbustes, petits arbres dans les vallées, là où on est bien protégé du vent. Et les maisons sont donc construites en bois et elles sont conçues pour être posées sur un sol gelé, c'est-à-dire sur un sol stable. Et l'été, le pergélisol fond, mais en surface de quelques centimètres, ce qui ne cause aucun glissement de terrain. Sauf que depuis environ 7 ans, on a remarqué, surtout au Nunavik, des affaissements de terrain, et cela dans 8 communautés sur 14. C'est une situation inquiétante, pensent les Inuits. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Vous en connaissez, certains exemples ont été médiatisés. Vous avez sans doute entendu parler de la relocalisation des habitants des Inuits de l'Alaska, du petit village de Chismaref, qui ont dû être relocalisés plus loin à l'intérieur des terres, car leur village situé en bordure d'océan commençait à être rongé et donc présentait des dangers pour ce tout petit groupe. Donc je pourrais multiplier les exemples. Les Inuits sont très attentifs. Et très attentifs, mais en même temps actifs. C'est-à-dire qu'ils entreprennent des actions par la voix de leurs représentants et représentants qui sont regroupés au sein de la conférence circumpolaire inuite. C'est une conférence, si vous voulez, c'est une ONG qui réunit les Yupits de Sibérie, les Inuits de l'Alaska, ceux de l'Arctique canadien et du Groenland. Et les porte-paroles de la conférence circumpolaire Inuit se sont montrés très attentifs ces dernières années à la question du réchauffement, parce qu'ils sont extrêmement inquiets. Et ils ont choisi, ils connaissent bien les causes du réchauffement, mais ils ont choisi de ne pas accuser l'Occident de ses méfaits industriels, et de ne pas se poser en victime. Ils considèrent que la victimisation peut se révéler à terme une attitude incapacitante. Donc, en accord avec une règle qui prévaut à l'intérieur de leur culture, ils ont pris le parti de privilégier la parole. Une parole qu'ils posent comme une arme, une arme à la fois défensive et offensive, est capable d'imposer l'idée du droit à un environnement sain, condition essentielle de la survie de leur culture spécifique. Rappelons que les gouvernements d'autonomie interne au Groenland ou au Nunavut dans l'Arctique canadien ont été créés sans prise d'armes, sans violence, par le seul pouvoir d'une parole qui a su convaincre parce qu'elle était fondée sur le respect, le non-rejet de l'autre. L'une des stratégies des Inuits consiste à considérer que les exigences formulées à partir des régions circumpolaires, aussi étendues que soient ces régions circumpolaires, doivent dépasser le cadre local et le cadre régional. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'action, un mot d'ordre, si vous voulez, et qui est le suivant. Protéger l'Arctique pour protéger la planète. Et c'est un appel à ne pas considérer la situation en Inuit en elle-même, pour elle-même, et isolée de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et c'est une attitude qui n'est pas propre au seul leader Inuit, parce que ici et là, dans un village, dans une communauté, on peut entendre dire, par exemple, de la bouche d'un artiste, comme ça a été le cas il y a très peu de temps, « Aidez-nous, nous vous aiderons ». Les opinions, les analyses, les actions inuites ne se veulent pas essentialistes. Et je veux dire par là qu'elles ne comportent aucun trait qui, par un biais ou par un autre, pourrait rappeler le repli sur soi, l'exclusion de l'autre. Et je parle ici, bien sûr, des déclarations publiques. Ce que les Inuits se disent à huis clos peut être différent. Mais je veux dire que les Inuits sont capables de prendre des positions fortes, des positions, je dirais, généreuses, dès lors qu'ils considèrent que les enjeux sont importants. La lutte en faveur d'un environnement sain s'affirme comme dépassant le seul intérêt des peuples de l'Arctique. C'est ce que dit la conférence circumpolaire inuit. Il s'agit d'un droit applicable à tous les peuples autochtones et non autochtones, riches, plus ou moins riches ou démunis. Mais il est toutefois rappelé que les peuples autochtones sont les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus exposés aux conséquences néfastes du réchauffement accéléré. Il y a 2 ans, c'était donc en 2005, Sheila Watt-Cloutier, qui était alors présidente de la conférence circumpolaire Inuit, est d'accord avec un groupe d'autres représentants Inuits, a pensé que la question du droit à l'environnement devait être inscrite dans la Charte des droits de l'homme. Très courageusement, elle a déposé, avec l'appui d'une 60aine de signatures d'Inuits, une plainte à Washington. Ceci auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, soulignant que les émissions américaines de gaz à effet de serre violaient les droits environnementaux et culturels des Inuits. Et ici, je voudrais la citer. Notre mode de vie et nos ressources alimentaires sont en danger. Les changements climatiques affectent tous les aspects de notre vie. Leur impact dévastateur sur l'Arctique est un signe précurseur de ce qui attend le monde. Nous avons un droit à la vie, à la santé, à la sécurité, au territoire, à l'économie de subsistance et à la culture. Ce sont là les vraies questions politiques posées par les changements climatiques. Et je vous rappellerai que Sheila Watt-Cloutier, ainsi que l'ancien vice-président américain Al Gore, tous deux ont été proposés pour l'obtention du prix Nobel de la paix 2007. Les chasseurs inuits expérimentés qui ont hérité de connaissances fiables de leurs parents, de leurs grands-parents, voire même de leurs arrière-grands-parents, considèrent que ils doivent avouer leur perplexité devant l'accélération du changement de climat, devant les effets du réchauffement. Ils ont du mal, à l'heure actuelle, à effectuer une lecture juste des diverses situations météorologiques, qui sont susceptibles, évidemment, d'affronter dès lors qu'ils quittent leur village. C'est-à-dire qu'un chasseur considère que, et l'entourage d'un chasseur considère que ce chasseur ou ce groupe de chasseurs peut partir dans des conditions fiables à la chasse et revenir dans de bonnes conditions. Sauf qu'il se trouve qu'à l'heure actuelle, il est difficile, délicat, ou du moins de plus en plus délicat, d'évaluer si le temps se maintiendra. Et vous savez, les enfants, dès leur tout jeune âge, sont poussés, sont amenés à ouvrir la porte le matin, à aller voir quel temps il fait, à revenir et à présenter un court rapport, si je puis dire, de ce qu'ils ont pu observer. Ceci devient de plus en plus difficile. C'est un apprentissage qui serait contrecarré par les horaires scolaires. Maintenant, les jeunes avalent ou n'avalent pas un thé ou un chocolat chaud avant de partir, un peu comme ici. Ils partent en courant, ils sont en retard. Et les parents disent que, puisqu'ils n'ont pas le temps de regarder, d'évaluer le temps qu'il fait, ils ne peuvent pas se former à l'environnement qui est le leur. Et si on ajoute à cela, évidemment, le fait que des chasseurs expérimentés eux-mêmes avouent leur perplexité, vous verrez que la situation est, par certains biais, inquiétante. Mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois dans l'histoire des Inuits que des groupes ont dû affronter des changements climatiques. Il y a eu des refroidissements, des périodes de réchauffement, et au point où des sociétés, des groupes entiers ont dû modifier leur trajectoire de migration, ont dû modifier leur technique de chasse, ont dû modifier certains aspects de leur organisation sociale, et voire même certains aspects de leur vision du monde. Mais plus récemment, les Inuits ont tout de même fait face à deux difficultés. D'une part, la présence de polluants organiques persistants dans les eaux arctiques, ce qui veut dire des pesticides, ce qui veut dire des métaux lourds, qui se trouvent en quantité non négligeable dans la graisse et la chair des mammifères marins, bien sûr, animaux qui sont privilégiés par les Inuits, qui se nourrissent bien sûr d'autres gibiers, de caribous, mais néanmoins, le phoque représente, je vous le disais tout à l'heure, une alimentation de choix. Et puis, souvenez-vous que les Inuits ont été condamnés pour leur pratique de la chasse aux phoques. Ils ont été injustement condamnés par les pays occidentaux qui ont confondu chasse de subsistance et chasse commerciale. Jamais les Inuits n'ont pratiqué la chasse commerciale aux phoques. Cela va de soi et je crois que heureusement aujourd'hui, c'est reconnu. On est revenu à des positions beaucoup plus respectueuses de la vérité. Donc, si vous voulez, le réchauffement climatique représente une pression supplémentaire sur les sociétés inuites fragilisées par les activités industrielles menées à des kilomètres de leur région. Et face à l'accélération du changement climatique, ils évitent néanmoins les déclarations fracassantes de type « le réchauffement est une menace aussi grave qu'une guerre mondiale ». Enfin, ce n'est pas le discours inuit. Et en accord avec leur culture, ils s'inscrivent plutôt dans, je dirais, les processus d'une action réfléchie. Mais les Inuits âgés considèrent que la Terre a toujours eu besoin de se refroidir. La Terre, disent-ils, est sensible aux activités humaines, non seulement aux activités humaines, mais aux paroles humaines. même celles qui sont prononcées à voix basse. Et la terre est particulièrement sensible à la maladie, si bien que des Inuits à l'heure actuelle se souviennent que très jeunes, ils aient changé d'igloo. Vous savez, dans l'Arctique canadien, on a vécu dans l'igloo jusque dans les années 1960. Donc certains se souviennent d'avoir changé d'igloo à un moment parce qu'il y avait trop de maladies autour et que la terre devait se régénérer et en langue inuite, on dit se refroidir. Si vous voulez, selon les représentations inuites, tous les éléments composant l'environnement ont une origine humaine. Même les plus lointains, le soleil, la lune. Et par conséquent, il existe une forme d'obligation réciproque qui préside aux relations homme-environnement. C'est un savoir-faire, un art de cohabiter, un art de vivre ensemble, avec des règles, bien sûr, et avec des devoirs. Et je dirais que face à des situations difficiles que vivent les Inuits et bien sûr d'autres peuples du monde circumpolaire, je dirais que nous, occidentaux, nous devons nous prémunir contre, je dirais, les déclarations abusives qui, dans un récent passé, ont été maintes fois formulées à propos des Inuits. Ils vont disparaître. Ils seront assimilés, leur langue et leur culture ne résisteront pas. Les missionnaires l'ont dit, les explorateurs l'avaient dit avant eux, les administrateurs l'ont dit, les scientifiques, malheureusement, l'ont dit. Il faut donc prendre, si vous voulez, en compte l'histoire inuite dans sa durée, et reconnaître ce que les Inuits disent d'eux-mêmes. Ils ont la capacité de résister et ils ont la volonté de résister. Le milieu arctique était un milieu de vie et doit rester un milieu de vie. Si vous voulez, j'aimerais bien vous donner la parole, donc je vais m'arrêter, mais simplement, avant de conclure, je vous rappelle quelques chiffres. Une enquête récente a montré, peut-être contrairement à l'attente, une enquête qui avait été menée en 1998-2001 par l'Institute of Social and Economic Research de l'Université d'Anchorage. Et c'est une enquête qui portait sur les conditions de vie dans les diverses communautés, enfin villages, si vous voulez, inuits de la Sibérie jusqu'au Groenland. Et il se trouve que 2/3 des Inuits, on dit à l'exception des Yupits de la Sibérie, les 2/3 se sont montrés satisfaits des conditions de vie qui étaient les leurs. Et pour deux raisons. Parce qu'il leur était donné encore de pratiquer la chasse de subsistance et, bien sûr, de préserver la culture qui est liée à cette forme de chasse très spécifique dans un milieu spécifique. Ce sont des chiffres peut-être auxquels on ne s'attendait pas, parce que si l'on dit 2/3 d'Inuits satisfaits, c'est que beaucoup le sont et peut-être que là, ceci nous donne à réfléchir. Je vais vous rappeler tout simplement, avant de terminer, quelques autres chiffres. Les Inuits de la Sibérie au Groenland sont à l'heure actuelle environ 140 000, peut-être 150 000. Sur la terre-mère en Sibérie, un petit nombre de Yupits, environ 1500, vivent en Tchoukotka, sur le détroit de Bering, juste, si vous voulez, en face, si je puis dire, en face de l'Alaska. En Alaska, vivent environ 40 000 Inupiat. Les Inupiat habitent le nord de l'Alaska. Et Yupit, voisins culturels, hein, les Yupit, le centre de l'Alaska. Dans l'Arctique canadien vivent environ 30 000, 35 000 Inuits dans les territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Labrador. Et la concentration la plus importante se trouve au Groenland, où les Katlalit, ou si vous voulez les Inuits du Groenland, sont environ 50 000. Donc, un peuple qui est numériquement faible, on pourrait le considérer comme tel, par exemple, au Nunavut, on peut penser à une faible densité de population aussi. Vous savez, le Nunavut fait plus de 2 millions de kilomètres carrés pour 28 000 personnes. Donc, très, très faible densité. Alors, un faible nombre, c'est vrai, d'Inuits tout autour du pourtour circumpolaire, mais néanmoins un peuple qui fait face à de grands défis à l'heure actuelle et qui entend y répondre avec la communauté internationale. Je vous donne maintenant la parole.
Des questions? Je ne vois pas. Là, devant, pardon.
Bonsoir. J'avais une question à vous poser au sujet des migrations. Vous avez parlé de migration de population du Groenland au Nunavut ou au Nunavik, je ne me souviens plus très bien. Je voulais savoir si ces phénomènes étaient réciproques et s'ils étaient vraiment significatifs. Et s'ils étaient récents aussi. Voilà.
Merci. Je pense que lorsque je faisais allusion aux migrations, je pensais à l'histoire lointaine des Inuits. Ce que nous savons, et il semble que les archéologues s'entendent, des groupes de chasseurs seraient partis de la pointe nord-est de l'Asie, il y a peut-être 7000 ans, peut-être 6000 ans, auraient traversé par petits groupes le détroit de Béring, et serait arrivé sur une terre que nous appelons aujourd'hui un continent, enfin le nord de l'Amérique du Nord. Ce qui est certain, c'est qu'il y a environ 4000 ans, des petits groupes de chasseurs étaient installés le long de la côte ouest de l'Alaska et leur culture dite microlithique semblait bien être celle des ancêtres inuits. Certains ont migré, et peut-être que ce sont parmi les migrations les plus importantes de l'humanité. Certains ont migré jusqu'au Groenland en traversant l'Alaska, l'intérieur de l'Alaska, l'Arctique canadien, pour arriver non seulement sur la côte ouest du Groenland, mais sur la côte orientale. Et ils se sont arrêtés. La migration s'est arrêtée là. Il ne faut pas penser sans doute qu'ils ont été chassés par une guerre ou il semble que ce soit de petits groupes de chasseurs qui aient suivi les migrations des grands gibiers, les mammouths. Et puis, vous savez que plus on monte vers le nord, contrairement à peut-être ce qu'on peut penser en Occident, plus les réserves alimentaires sont importantes. Donc les chasseurs de baleines de l'Alaska vivaient, semble-t-il, relativement bien. Et donc, des migrations, plusieurs migrations se sont effectuées jusqu'au Groenland. Je ne parlerai que de la toute dernière, qui a eu lieu il y a environ 1000 ans. Et ceci nous ramène peut-être à l'un des sujets de ce soir, donc les changements climatiques. Il s'est produit un refroidissement, ce qui fait que des petits groupes de chasseurs qui étaient installés dans le nord de l'Alaska et qui étaient spécialisés dans la chasse à la baleine n'ont plus eu accès facilement à ce gibier considérable et qui représentait des quantités très importante de nourriture. Ils ont quitté, encore là, par petits groupes. On les a appelés la culture de Thulé, mais c'est un terme qui ne vient pas de l'intérieur, hein, qui vient des archéologues. Et donc, ils ont quitté le nord de l'Alaska et ils ont effectué des migrations, hein, en suivant des trajectoires qui déjà avaient été suivies par d'autres. Et évidemment, ils sont parvenus jusqu'au Groenland. Et ils ont rencontré là d'autres groupes qui continuaient à y vivre. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. La mémoire orale inuite se souvient de cette rencontre. Mais que sont devenus les premiers occupants, si je puis dire, les premiers migrants, hein, nous n'en savons rien. Ce qui est certain, c'est que les premiers explorateurs qui sont arrivés dans ces régions, disons, au XVIe siècle, XVIIe siècle, surtout XIXe siècle, ont rencontré les descendants, si vous voulez, de ces migrants venus du nord de l'Alaska et appelés culture de Thulé. Et ces migrations, souvent, se sont effectuées et très rapidement. Ce qui expliquerait, pense-t-on, la relative homogénéité de la langue et de la culture inuite, même s'il faut être très prudent sur cette question, parce que les variations sont très grandes d'une région à l'autre.
Oui, merci madame pour votre brillant exposé. On a beaucoup de questions, mais je vais me limiter à une question technique. Lors de l'introduction, on nous a bien signalé vos ouvrages. Alors la question que je pose, est-ce que ce que vous nous avez dit ce soir se retrouve dans les ouvrages signalés dans l'introduction, premièrement? Deuxièmement, est-ce que vous avez à nous donner quelques conseils pour ceux d'entre nous qui s'intéressent à cette question de changement climatique et les Inuits, de consulter certains sites sur Internet? Est-ce que vous avez des préférences? Voilà pour les questions techniques. Merci.
Je répondrai d'abord à la première question. C'est une exclusivité. J'ai préparé cette conférence en fonction du thème extrême. Et j'avais bien prévenu Yves Michaud, lorsqu'il m'a gentiment proposé de m'intégrer au cycle, je lui ai dit « Oh, je m'excuse, je crois que je devrais me désister, parce que je ne crois pas que les Inuits puissent être considérés comme une culture de l'extrême ou dans une situation extrême. Je m'excuse, je regrette. Merci d'avoir pensé à moi. » Et il a répondu « Non, non, pas du tout. Au contraire, venez dire pourquoi vous pensez de cette manière. » Et voilà, donc cette conférence visait vraiment à répondre à cette question. Le qualificatif extrême s'applique-t-il à la manière dont les Inuits se représentent et vivent leur environnement? Et d'autre part, les sites sur les Inuits sont si nombreux. Vous savez, nous sommes, je ne peux pas vous en donner une liste qui serait par dizaines et dizaines. Les Inuits étaient des nomades, et peut-être, madame, je vais revenir à la première question qui était la vôtre. Les Inuits sont d'une culture nomade. Ils sont sédentaires, ils ont été sédentarisés à des périodes différentes de leur histoire. Plus récemment dans l'Arctique canadien, au XVIIIe siècle, au Labrador, au Groenland. Donc il y a des disparités, mais néanmoins, ils sont tous sédentarisés à l'heure actuelle. Et avec l'humour qui est le leur, ils disent que Internet leur permet d'être à nouveau nomades. Et lorsque Internet est apparu, lorsque d'abord les ordinateurs sont apparus chez eux, et c'était très rapide, les Inuits ont tout de suite donné un nom à cet objet, et ils l'ont appelé « haritoyak », c'est-à-dire ce qui ressemble au cerveau. Et donc vous pensez qu'ils ont tout de suite créé, bien sûr, des sites Internet, et à foison. Et ce qui est intéressant peut-être de savoir, c'est que l'ordinateur ressemble peut-être à un cerveau, c'est-à-dire à une mémoire, bien sûr,
est capable d'effectuer des opérations multiples, diversifiées. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'ils ont vu cet ordinateur comme étant, non pas producteur d'écrits, mais comme étant producteur de paroles. Et le disque dur de l'ordinateur se nomme Nipi, la voix. Ils avaient une imprimante à côté d'eux, hein, c'est absolument évident. L'imprimante a aussi son nom. Mais néanmoins, et une disquette, c'est Nipiksok, c'est-à-dire ce qui est susceptible de produire de la voix. Donc c'est un outil de communication, mais un outil de communication comme on communique optimalement par la voix. Voilà ce qui est issu d'une tradition orale et qui perdure même lorsque l'on nomme des éléments venus de l'extérieur et qui sont manifestement reliés à l'écrit. Et pour revenir au site, je vous dirais que puisque c'est l'année polaire internationale, beaucoup de sites ont été mis en place et vous n'aurez pas de mal à pianoter et à trouver, ne serait-ce que par Google, tous ces sites qui répondront à vos questions. Mes collègues anthropologues s'intéressent bien sûr à l'année polaire, le CNRS s'intéresse à l'année polaire, les géophysiciens s'intéressent à l'année polaire. Vraiment, il y a une mobilisation, non seulement en France, mais une mobilisation internationale. Et lorsqu'on dit année polaire, on dit 2007-2008, mais c'est mal compté, c'est bien 2007-2009.
Une question tout en haut.
S'il vous plaît, madame, y a-t-il encore des pratiques chamaniques ou des subsistances de pratiques chamaniques? Je suis allée deux fois au Groenland et il en était question. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est, s'il vous plaît.
La culture inuite est marquée par le chamanisme qui a décliné lorsque les premiers missionnaires sont arrivés dans ces régions lointaines, des missionnaires anglicans, des missionnaires russes pour une partie de l'Alaska, des missionnaires oblats, des oblats d'ailleurs français, hein, sont allés au Canada. Et bien sûr, ils ont choisi de christianiser, c'était là leur mission. Ils s'y sont bien appliqués, de telle sorte que les Inuits ont été christianisés et qu'à l'heure actuelle, tous se reconnaissent comme étant chrétiens, d'une confession ou d'une autre. À cela s'ajoutent à l'heure actuelle des sectes. Les sectes sont également présentes dans ces régions. Et quant au chamanisme, jusqu'à, je dirais, ces dernières années, il était extrêmement difficile pour les Inuits d'en parler ouvertement. Ils ont considéré qu'il ne fallait pas critiquer trop ouvertement le clergé. Donc, ils se sont mis, je dirais, en retrait par rapport à leur savoir. Et chaque fois qu'il était question de chamanisme, ou plus précisément de chaman et de pratique, alors on entendait dire « Ah oui, mon oncle, ah oui, mon grand-père, ah oui, ma grand-mère, ah oui, il existe un chaman dans la communauté, le village voisin. » Ce n'était jamais à proximité, ce n'était jamais soi. Et j'ai remarqué, pour ce qui est du Nunavut, c'est-à-dire l'Arctique québécois, que la création du territoire du Nunavut en 1999 a libéré la parole. C'est-à-dire qu'en reconnaissant un territoire qui appartenait en propre aux Inuits, après des négociations avec le gouvernement central canadien, les Inuits ont également construit un projet de société, mais un projet de société visant à ne pas couper les liens avec un savoir qui était encore là.
Et ils ont mis en place ce qu'ils appellent une vision pour le Nunavut, en Inuktitut, Inuit Koyimayaturanit, et qui désigne le savoir inuit, si vous voulez, traditionnel, je n'aime pas le qualificatif, mais j'ajoute, encore pertinent dans un monde qui a changé et dans un monde qui ne cessera pas de changer. Donc il n'y a pas ce regard, si vous voulez, nostalgique sur un passé révolu. Mais il se trouve que les Inuits ont libéré la parole, qu'ils ont accepté de parler du chamanisme, non seulement de parler du chamanisme, mais de transmettre des connaissances à des plus jeunes, et de faire en sorte que ces connaissances soient transmises oralement, mais également soient reportées, transcrites dans des ouvrages. Et vous pouvez, madame, puisque vous demandiez tout à l'heure des sites internet, vous pouvez donc consulter un site qui est celui de nunavut.com et vous trouverez là une série d'ouvrages qui s'appelle Interviewing Elders in Narnik Aperksoratarnak en Inuktitut. Et dans très peu de temps, toute la série devrait figurer en langue française sur ce même site. Du moins, j'ai rendu ma copie en langue française. L'ouvrage avait d'abord paru en Inuktitut, il avait été traduit en anglais et maintenant il est traduit en français. Et il s'agit d'entretiens entre des aînés et des plus jeunes. Et on avait demandé à quelques universitaires d'aider ces jeunes, de les former, si vous voulez, rapidement à une enquête de type ethnographique. Donc vous voyez, les Inuits sont prêts à s'ouvrir, sont prêts à collaborer, sont prêts à des partenariats pour transmettre un message qu'ils considèrent important. Je ne dirais pas que les chamans existent à l'heure actuelle, ce serait faux, et en même parce que les séances chamaniques ne sont plus visibles. Mais en même temps, ce serait faux de dire que la pensée chamanique n'existe plus. Tout le rapport au monde animal, tout le rapport à l'environnement est marqué par cette pensée. Et qu'il se trouve que je pense que les Inuits arrivent à bien juxtaposer chamanisme d'hier, christianisme d'aujourd'hui. Je ne crois pas que ça soit un syncrétisme. Je crois que c'est une habile juxtaposition. Voilà.
Une question au milieu.
Oui, bonsoir madame, vous avez excité ma curiosité. J'aimerais connaître quelle est l'origine de la langue inuit et savoir si la langue lapone est de la même famille. Et enfin, pour terminer, savoir s'il existe des écrits dans cette langue. Merci.
La langue inuit, je dirais, est l'une des plus étudiées. Et nous n'avons pas fini, sans doute, de l'étudier. Madame demandait tout à l'heure une référence, donc je peux vous référer au seul ouvrage écrit en langue française sur la langue inuite, qui est l'ouvrage « Les langues escaléoutes » publié chez CNRS Éditions en 2002 et que j'ai réalisé avec une collègue du CNRS, Nicole Tercis. La langue inuite, semble-t-il, n'a de lien avec aucune autre famille linguistique. Et en même temps, on pense qu'il y a aussi des liens avec les langues, je dirais, de la Tchoukotka, notamment, du Kamchatka. La langue inuite, donc, a pris sans doute naissance en Sibérie. Elle s'est développée par la suite en Amérique du Nord, y compris au Groenland. Elle appartient à la famille dite Eskaléout, ou si vous voulez, Eskimoad Aléout, famille Eskaléout. Et c'est une langue, vous me posez la question, de savoir si elle a un lien avec les langues Sam, les langues lapones. Non. Ni avec les langues amérindiennes de l'Amérique du Nord, même si peut-être la structure, par quelques aspects, peut être rapprochée.
Et je crois que ceci, pour vous parler de la langue Sam, je crois que ceci vient de l'histoire. Il semble que des peuples se soient trouvés à un même moment en Sibérie, sans doute sur une longue période, mais néanmoins à un même moment en Sibérie. Les Inuits sont partis en direction de ce qui allait devenir le Groenland, et les Sam ou les Samis, hein, c'est ce qu'on les appelle, qui s'appellent eux-mêmes, sont partis dans une direction tout à fait opposée. Voilà ce qui fait que leur langue n'a pas de lien. C'est une langue qui ne ressemble pas à nos langues indo-européennes. C'est une langue de type agglutinant ou polysynthétique. Enfin, on lui affecte plusieurs qualificatifs. C'est-à-dire que, à partir d'une base, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit nominale, sont ajoutés des éléments qui ne sont pas indépendants. Et souvent, ces éléments peuvent aller jusqu'à une dizaine. Évidemment, selon des règles précises, vous l'imaginez bien. Et pour former un énoncé complet, c'est-à-dire une succession qui pour nous est très difficile à manier, et je peux peut-être vous en donner un exemple. Si je dis par... je vais vous tutoyer, je regrette, le vouvoiement n'existe pas en Inuktitut. Donc je vais te dire... J'irai avec toi à Inudjuark. Inudjuark est un toponyme. Eh bien, je vous dirai Inudjuamungoretiginiarpagittaok. Et je ne me suis pas arrêtée. Si je m'étais arrêtée, une hésitation, quelque chose, j'aurais dû recommencer dès le début parce que vous n'auriez pas pu comprendre l'enchaînement et voir ce que je voulais vous dire en toute fin. En toute fin se trouvent les éléments grammaticaux et il y avait donc le « je » et le « tu », si vous voulez, une première personne et une deuxième personne. Et tous ces éléments ne respectent pas l'ordre auquel nous sommes habitués dans nos langues, ce qui rend la chose difficile. Je pense qu'il y a peut-être quelques-uns de mes étudiants ici qui pourraient vous confirmer que l'apprentissage de cette langue est à la fois passionnant et difficile.
Une dernière question sur... Là-bas. J'aimerais savoir si vous avez parlé de pesticides tout à l'heure. Je reviens un peu sur le réchauffement et les méfaits éventuels de nos civilisations sur cette région du monde. Est-ce que ça affecte l'allaitement des femmes? Est-ce qu'elles allaitent ou est-ce que c'est une pratique qui a disparu? Est-ce qu'elles donnent le biberon? Et est-ce qu'il y a des incidences du fait qu'elles mangent de la viande? Est-ce qu'il y a des problèmes de malformation? Ça, c'est une question. Et j'en ai une autre qui concerne le tourisme. Du fait de la fascination de cette région qui est un peu une de nos dernières frontières, je crois savoir qu'il y a de grandes masses proportionnellement de tourisme et que ça deviendrait un peu néfaste et pesant sur les populations là-bas. Voilà.
Pour répondre à votre première question, plusieurs études portent sur les conséquences actuellement de l'allaitement des nourrissons. Parce que l'on a remarqué ces taux élevés de pesticides, de métaux lourds dans la graisse des phoques, dans la viande des phoques. Et c'est donc un problème de santé publique majeur. Et il se trouve que les études médicales ont démontré, et je pense qu'il y a pour l'instant unanimité chez les chercheurs, les études ont démontré que les méfaits ne sont pas aussi importants que les bénéfices de l'allaitement maternel. Et que, certes, il y a un danger pour la santé. À un moment, les femmes inuites ont dit « mais nous empoisonnons nos nourrissons ». Et pour l'instant, il n'est pas question de s'interdire de bien se nourrir en mangeant de la viande de phoque.
Donc voilà pour les derniers résultats. Mais la conscience est là, autant chez les chercheurs que chez les Inuits. Et quant à la deuxième question, le tourisme, je pense que dans la majorité des cas, il s'agit d'un tourisme souhaité, d'un tourisme raisonné, d'un tourisme, je dirais peut-être qu'on pourrait qualifier d'éco-tourisme. Du moins, le Premier ministre du Nunavut vient de signer à Paris, il y a quelques mois, un accord visant le tourisme et appelant les Français, invitant les Français à venir à la rencontre des Inuits. Mais il faut savoir que c'est un tourisme qui est pris en charge par les Inuits, qui pour une part importante est au bénéfice des Inuits, c'est-à-dire qu'en tant que touriste, vous êtes accueilli. Vous êtes attendu, vous êtes accueilli, vous ne pouvez pas errer. Ce qui serait même, je dirais, dangereux. Dès que l'on quitte un village, vous pouvez rencontrer des animaux, bien sûr. Ils sont en liberté et vous n'avez quand même pas l'expérience qu'ont les Inuits. Et ce serait un souci pour les Inuits que ce genre de légèreté. Donc c'est un tourisme qui est encadré, mais je pense intelligemment encadré. Les Inuits disent qu'ils souhaitent ce tourisme, qu'ils souhaitent s'ouvrir, et de la même façon qu'ils souhaitent, eux, voyager. Donc ils redeviennent nomades à l'heure actuelle. Nous invitons beaucoup d'Inuits à venir ici, ils viennent enseigner, ils viennent à notre rencontre, et ils vont partout dans le monde. Et je trouve que c'est important, ils considèrent eux-mêmes, bien sûr, d'abord que c'est important, et ils ne peuvent pas concevoir que ce qui se passe chez eux ne soit pas connu du reste du monde et ne soit pas partagé.
Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.